France Musique.
J'attendrai.
André Tuboeuf, Mémoire, une émission proposée par Lionel Esparza, réalisée par Antoine Courtin. Aujourd'hui, 7e épisode, rencontre avec des artistes remarquables.
Thank you.
liebt ein Mädchen, die hat einen anderen Weg. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt auf Sorge den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie nur passiert, dem bricht das Herz entzwei.
Robert Schumann, trois extraits d'Dichter Liebe, Les amours du poète. C'était Lotte Lehmann qu'on entendait ici en 1941 avec quelqu'un au piano qui n'était pas avant tout pianiste mais qui connaissait un peu la musique et qui savait en faire des choses pour le moins originales. C'était Bruno Walter à ses côtés. Bonjour André Tuboeuf.
Bonjour Lionel.
On commence grâce à vous notre septième émission autour de votre vie, de vos mémoires, avec cette Lotte Lehmann, surtout le duo qu'elle forme ici avec ce chef d'orchestre pianiste d'occasion.
Et oui, c'est une des rencontres les plus importantes de ma vie, une des influences les plus profondes qui a été exercée sur moi, parce que vous voyez, nous avons déjà suffisamment raconté mes enfances, si je peux dire. Mais l'important pour moi, c'est maintenant de montrer quelles influences, qui a passé sur moi des choses extraordinaires et que j'ai gardées, que j'ai essayé de préserver contre la mode, pour les faire connaître à d'autres, comme si il y avait un fil qu'il fallait surtout ne pas laisser s'interrompre, parce que ça serait peut-être irrattrapable. Montrer qu'une façon de faire de la musique avec cette sensibilité, cette humanité-là, cette façon d'éclairer les mots, sans emphase, de montrer les nuances du sentiment, de s'inventer dans la voix des éclaircissements soudains, rendre le texte comme intelligible, même à ceux qui ne savent pas l'allemand, tellement la passion, le sentiment est présent dans ce qui est chanté. Il y a pour cela un exemple absolument unique qui est Lotte Lehmann. Évidemment, je l'avais connu avec Bruno Walter, la dirigeant comme chef d'orchestre dans l'immortel premier acte de la Valkyrie, enfin, qui simplement nous donne une autre idée d'une manière d'entendre Wagner et même plus en général l'opéra, de façon à imaginer simplement un visage, une personne, une identité et des passions qui sont en jeu, et une espèce de vérité de la vie qui ne se dit pas dans la vie même, et que d'une certaine manière l'opéra, à cause de la musique, dit mieux que la vie ne nous l'enseigne habituellement. Alors, Lotte Lehmann est, je crois, la toute première à qui j'ai osé écrire. Je savais qu'elle était en Amérique, je croyais savoir qu'elle était aimable, elle a montré qu'elle l'était en effet. J'ai dû échanger sur une dizaine d'années pas loin d'une centaine de lettres avec elle, auxquelles elle répondait toujours avec la plus grande gentillesse, m'envoyant des liasses de photographies comme souvenir. Et j'ai surtout eu la chance de pouvoir la rencontrer parce que je savais que elle venait à Salzbourg chaque année pour revoir ses amis de Vienne, pour suivre une cure à Bad Gastein, car elle avait des jambes, la malheureuse, très lourdes. Elle était très déformée. Elle marchait avec beaucoup de mal, mais avec toujours cette espèce de sourire enthousiaste et généreux qui la précédait partout et qui faisait que tout le monde s'inclinait sur son passage comme devant une personne royale. Et je suis allé voir comme cela 3 ou 4 fois, je trimballais des kilos de 78 tours que je voulais lui faire dédicacer. Ils étaient rares, il me semblait qu'ils étaient ainsi encore un peu plus authentifiés par elle. Et ce n'est pas qu'elle m'ait ouvert des horizons, elle ne m'a ouvert des horizons que par le moyen de son chant. Enfin, c'est dans le chant de quelqu'un comme Lotte Lehmann qu'on s'aperçoit que, eh bien, si je dois quand même parler un peu, je ne dis pas comme le philosophe que je ne prétends pas être, mais enfin comme l'analyste qu'après tout je peux prétendre être, eh bien, je veux dire, l'incarnation, l'union de l'âme et du corps, l'expression de l'âme dans le corps, trouve dans le chant quelque chose d'absolument privilégié, qu'on n'a pas assez étudié, auquel on n'a pas assez réfléchi. Je peux dire que autour de ce mystère, qui est à la fois un mystère extrêmement joyeux et enthousiasmant, jubilatoire, mais en même temps porteur d'une émotion extrêmement profonde, voilà, je m'y suis toujours beaucoup référé, et toujours avec comme l'image de Lotte Lehmann, et de Lotte Lehmann dans ce rapport avec Bruno Walter au piano, qui fait ce qu'il peut, vous dire. Il avait commencé par se dire qu'il serait un jour pianiste, et puis il a choisi chef d'orchestre. Mais c'était pas pour devenir patron de quelque chose, c'est pour devenir le communicateur de quelque chose, et pour devenir l'animateur et l'inspirateur, pour toute la génération de chanteurs qu'il a formé, de chanteuses surtout, et en qui on reconnaît immédiatement, enfin, la trace de Bruno Walter, c'est-à-dire une sensibilité, une façon d'aborder la musique, de prendre la musique comme moyen de communication plus intime et plus évident et plus universel, au-delà des langues, au-delà des clivages politiques, au-delà de tout ce que l'histoire, en cette même période qu'ils ont vécu l'un comme l'autre, Walter et Lotte Lehmann, a pu produire comme horreur. Bon, et à la suite de Lotte Lehmann, j'ai été son passeur aussi, parce que, par exemple, je prends l'exemple de Régine Crespin que nous allons entendre tout à l'heure. Régine, qui était la sensibilité même et l'humanité même, et qui était, si vous voulez, dès le départ, une sorte de Lotte Lehmann à qui un Bruno Walter avait manqué. Je veux dire, elle a eu Georges Prêtre, elle n'a pas eu à se plaindre, mais enfin, elle n'a pas eu ce Bruno Walter, et d'une certaine manière, sur la culture allemande, elle qui tout de suite, dans Berlioz, a été si intuitivement géniale, qui a, je dois dire, a chanté le français comme absolument personne ne rêvait plus de le chanter, et a été aussi miraculeuse en italien et en allemand. Enfin, il n'y a pas à rappeler ce qu'elle a fait ensuite à Bayreuth, ses rôles allemands, au point qu'on pensait qu'elle était une chanteuse allemande. Bon, et à un moment donné, elle a été appelée au Metropolitan, et j'avais fait entendre à Régine, ça c'était l'avantage de Strasbourg, c'est que elle est venue, après que nous soyons vus pour la première fois à Bayreuth, 2 ans de suite pratiquement, donner le bal masqué et puis Parsifal, et donc on l'a beaucoup vue, elle restait là pendant les représentations qui étaient assez rapprochées, et elle passait tout son temps libre, elle le passait à la maison à écouter des disques. Et je revois Régine, qui était svelte, mais enfin qui n'était pas une liane, qui littéralement assise par terre, très sautée à chaque fois que je lui faisais entendre une sorte de merveille vocale. Pas du tout pour la performance vocale, qui n'est pas ce qui l'intéressait, mais précisément pour l'inflexion, la phrase, la sensibilité, les Zieglinde de Lotte Lehmann notamment, enfin, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle écoutait avec ivresse, et en se disant, mon Dieu, on dit que je suis bonne en allemand, mais est-ce que je pourrais jamais faire quelque chose comme cela? Bon, et Régine avait déjà été à Glyndebourne pour la maréchale, et elle a été invitée à ce moment-là au Metropolitan, ce qui a été le grand break de sa carrière, parce que jusqu'alors elle était formidablement européenne, mais enfin elle n'avait pas conquis l'autre côté de l'océan. Et elle était un peu terrifiée, parce que ce n'est pas seulement qu'elle avait débuté dans le Chevalier à la Rose à New York, mais elle avait à le faire avec comme metteur en scène Lotte Lehmann. Et elle était impressionnée, elle était, je dois dire, n'importe qui l'aurait été à sa place. Et j'avais eu beau lui dire, Régine, tu sais, Lotte Lehmann, autant que je la connaisse, et je ne la connaissais encore que pour nos échanges de correspondance, et ce qu'il y a de plus attentif, ce qu'il y a de plus amical, est dévoué avant tout à l'intérêt de l'œuvre. Elle est là, comme était son maître Bruno Walter, pas pour imposer une idée et une forme d'interprétation, mais pour aider l'interprète à donner le meilleur de soi-même, qui n'aura pas nécessairement à être conforme à la maréchale idéale qu'à un moment donné a pu effectivement donner Lotte Lehmann. Alors Régine me disait, ah, tu me rassures, mais enfin, on ne sait jamais, parce que quand une chanteuse rencontre une autre chanteuse, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais enfin, ça s'est très bien passé. Elles sont devenues, Lotte Lehmann est entrée dans une espèce d'admiration absolue, enfin, devant la grâce, l'élégance aristocratique innée de Régine, le côté simplement princier de son allemand. Et il faut dire que c'est en un sens ce premier succès au Metropolitan qui a assuré à Régine un pas de l'autre côté de l'océan et lui a donné une espèce d'énergie, de courage batailleur pour aller imposer ce qu'elle était seule à pouvoir faire entendre à San Francisco d'abord et puis jusqu'à Buenos Aires, c'est-à-dire l'Iphigénie de Gluck et éminemment ces Troyens de Berlioz qu'elle avait un peu contre vents et marées, tout de même, repris à l'Opéra de Paris, dans une version abrégée, certes, mais à la fois Cassandre et Didon, et dont elle nous a laissé un enregistrement dont nous allons pouvoir entendre quelque chose d'important.
Adieu, fière cité, c'est l'air de Didon, extrait des Troyens, d'Hector Berlioz, la voix, c'était celle de Régine Crespin, l'orchestre de l'Opéra de Paris en 1965, dirigé par Georges Prêtre. On entend toujours ça qu'on connaît très bien, André Tuboeuf, mais il y a toujours quelque chose de miraculeux dans cette voix et dans cet air-là.
Il y a toujours quelque chose, je veux dire, la diction, la sensibilité, la ligne, la simplicité. Et comme il est regrettable que, je veux dire, Régine ait fait si peu de disques, pour commencer, et aussi, d'une certaine manière, il faut le dire, que le studio lui était si peu favorable. Mmh. Parce que la vibration lyrique libre de la voix était absolument merveilleuse. Mais dans le studio confiné, c'est comme si elle se repliait un peu sur elle-même, comme ayant peur de déborder et d'être trop généreuse. Mais enfin, nous pouvons être heureux d'avoir en tout cas ce document de studio qui montre quelque chose qui a quand même marqué d'abord le retour de Berlioz, ou plus exactement, il faut bien le dire, l'entrée de Berlioz sur la scène internationale. Sa reconnaissance dans des termes plus légitimes. On ne méconnaît pas ce que les Anglais, Colin Davis en premier lieu, John Vickers, enfin, dans toute la série de Berlioz, d'opéras de Berlioz qui ont été réalisés par Philips à ce moment-là et qui sont exemplaires. Mais enfin, il y a une couleur, il y a une saveur, il y a quelque chose de particulièrement français que Davis pouvait attraper, que Vickers ne pouvait pas attraper. Bon. Au-delà, là, au-delà de Régine et de ce travail, il y a tout ce qui commençait aussi à débouler sur la scène à ce moment-là. C'est le moment où il a commencé à y avoir un retour à des ouvrages anciens. La sorte de révolution que quelqu'un comme Arnoncourt était modestement en train d'établir à partir de Vienne, et il faut bien le dire aussi à partir de son poste de violoncelle solo au Wiener Symphoniker, c'est-à-dire c'était un musicien légitime, comme on pouvait le dire, grand soliste dans un grand orchestre, ayant fait de la grande musique classique, comme on peut le dire avec les plus grands, Clemens Krauss, Karajan, etc., qui tout d'un coup, voilà, voulait à sa place de son grand violoncelle une voix plus discrète, plus intime et plus pénétrante, un peu sur le modèle de ce que sera plus tard Jordi Savall avec lui-même sa gambe. Et en s'entourant Arnoncourt, bon, sa femme, Alice, etc. Et ça commençait à débouler et en inventant une nouvelle manière de chanter, mais avec toujours des chanteurs nés eux-mêmes dans le classique. Et sachant ce qu'un vibrato contrôlé veut dire, et ce qu'un vibrato contrôlé apporte, en effet, au son et par là même à la musique. Et j'ai eu la chance, enfin pendant le très peu de temps où j'ai été directeur artistique du Festival de Strasbourg, de pouvoir offrir à Arnoncourt, puisqu'on faisait un festival Vienne, précisément la place sur la Vienne ancienne, enfin Fuchs, et voilà, des gens dont absolument personne ne parlait. Et j'ai pu me trouver comme ça assis à une table à côté d'Arnoncourt, nous avions à peu près le même âge, lui un tout petit peu plus âgé que lui, nous étions de première fraîcheur pratiquement. Et il était absolument rempli de projets. Il n'était pas encore dans son cycle Monteverdi à Zurich avec Ponel. Il avait encore tout à faire. Il avait encore tout à faire et cherchait des points d'appui pour le faire. Et on a vraiment, je connaissais très bien Ponel qui travaillait souvent à Strasbourg. Nous avons vraiment beaucoup parlé chaque fois qu'ensuite qu'on s'est retrouvés. On a parlé de, il a continué à abonder en projets. Un des projets remarquables étant toujours de renouveler ce qu'il avait fait parce qu'il savait que la doctrine pourtant très clairement affirmée en 1965 n'était plus du tout ce qu'il prétendait maintenant affirmer en 75. Et je dois dire, c'était pas une façon de se contredire, c'était une façon de se dépasser parce que chaque fois il était allé au bout de ce qu'il avait approuvé dans une certaine interprétation et il la rendait valide, tout simplement. Il la rendait valide. Et là, à côté des choses dont il se faisait le guide en quelque sorte archéologiste, il y avait aussi les choses connues de tout le monde et qu'il revisitait. Il y avait ce requiem de Mozart que tout le monde connaissait, mais enfin qu'on entendait plutôt comme le faisait Papa Böhm, comme il y avait même un disque, un vieil enregistrement par de Sabatin, enfin des choses qui étaient voilà de la grande musique classique faite qu'on aurait fait un peu comme on aurait fait Aïda, un peu comme on aurait fait le requiem de Verdi, toutes choses égales. Et tout d'un coup, avec Arnoncourt et son Concentus ont découvert une transparence, une espèce de méchanceté, un mordant, une énergie qui ne peut être qu'un peu destructrice, en même temps qu'elle construit quelque chose. Comme si il y avait chez lui toujours un besoin de dépasser et de prouver plus loin. Et je suis resté très attaché au tout début de ce requiem, d'abord parce que il nous révélait effectivement comme une nouvelle façon d'articuler la musique, et puis parce que dans le Te Deicet qui intervient tout de suite, dans le requiem, on entend Rachel Yacar qui était une de ces très jeunes chanteuses que j'avais entendues, moi, à Paris. Elle était élève chez Germaine Lubin, et régulièrement, j'allais chez Germaine Lubin entendre, c'est d'abord pour voir Germaine Lubin, et puis pour entendre ses élèves, et elle me suppliait de faire entendre les meilleurs à Strasbourg, où, disait-elle, on savait faire débuter les jeunes. Effectivement, Rachel est venue. Elle est venue avec sa petite valise de carton, enfin, timide et gentille et adorable, comme elle a toujours été. Et elle est repartie le lendemain avec un contrat pour débuter dans Frasquita de Carmen, ce qu'elle a fait. Et dans la salle, il y avait le directeur de Düsseldorf. Et hop, la voilà, elle est partie pour l'Allemagne pour 25 ans et pour une très merveilleuse carrière. Et là, c'est la petite Rachel. Et il m'arrive des espèces de larmes aux yeux en me disant, 15 ans après ça, Rachel me disait, tu vois, je peux faire ça pour Arnoncourt s'il me demande de le faire, et je peux faire la même chose pour Barenboim tel qu'il me demande de le faire. Et c'était ça le genre de gens qui se formaient alors pour cette sorte de musique, qui apportait la culture de l'une à la découverte de l'autre.
L'ouverture du Requiem de Mozart, Nicolaus Harnoncourt, en 1982, le Concertus Musicus de Vienne, et parmi tous les chanteurs qu'on entendait ici, Rachel Yacard, dont vous nous parliez il y a un instant, André Tuboeuf, pendant qu'on écoutait ceci, bah nous aussi on se parlait un peu hors micro et vous me racontiez une histoire justement avec Nicolaus Harnoncourt qui est significative aussi du rapport que vous avez aux artistes, autant aux chanteurs, vous leur apportez des disques, mais à des chefs d'orchestre, vous leur apportez des partitions?
Mais oui, vous savez, il suffit que les gens soient ouverts, réceptifs, je veux dire qu'on parle. Moi, je veux dire, je ne suis pas directeur d'orchestre, je ne sais pas lire la musique professionnellement, mais enfin, je sais qu'il y a des gens qui savent le faire et à qui on peut toujours rendre service en leur apportant un document. Et je me rappelle avoir trouvé un jour à Toulouse, dans les profondeurs d'une librairie, une merveilleuse édition de Fidelio, française, partition d'orchestre, avec un texte allemand et un texte français. Je l'ai acheté. Il y avait aussi un Requiem de Mozart, pas tout à fait aussi beau, mais ancien et élégant. Et je les ai achetés en me disant, bon, il y a toujours moyen de faire plaisir à quelqu'un. Le Requiem de Mozart, effectivement, j'en ai fait cadeau à Mouti. Je ne sais pas si Mouti a pu en faire un usage particulier, mais le fait est que je l'ai apporté, le Beethoven, à Harnoncourt, un jour à Zurich, où il dirigeait, je crois bien, de l'Offenbach. J'étais allé le voir dans sa loge, 20 minutes après, avant le spectacle, et je suis retourné le voir à l'entracte, et j'ai déjà lu une vingtaine de pages, et j'ai déjà réussi à corriger 8 erreurs qui sont partout ailleurs. Donc il était absolument enchanté de la chose. Bon. Vous savez, c'est le jeu. Voilà, on est toujours le passeur de quelque chose. Ceux qui aiment la musique ne forment en vérité qu'une seule vraie famille, celle des amateurs, enfin, et où on fait les choses plutôt par amour et par amitié qu'autre chose. Mais parmi ces influences dont nous parlions tout à l'heure et dont nous n'avons pas fini de parler, il y a aussi, je dois le rappeler maintenant, Hans Rotter, qui a été un des premiers à entrer dans ma vie. Mais j'ai vu constamment ensuite Rotter, le temps que j'allais à Munich pour voir des spectacles. Munich était ce qu'il y avait de plus proche de Strasbourg et Rotter était là. Et il y a eu ensuite, enfin, ces masterclass qu'il a données pour lesquelles il passait régulièrement par Strasbourg et s'y arrêtait. Il y a eu ces élèves que nous avions le peu de temps que j'ai passé à l'école de l'Opéra de Paris et ces élèves qu'il regardait avec tellement d'attention et tellement de soin. Il était là avec Elisabeth Grümer comme vraiment avec cette discipline allemande et cette attention allemande qu'on porte au développement des chanteurs, leur développement humain et musical en même temps. Et je me rappelle, Rotter, dans une sorte de masterclass, était en train de faire travailler, d'entendre. Non, il ne faisait pas travailler, il entendait, il corrigeait en quelque sorte la merveilleuse petite Catherine Dubosc qui chantait le solo de soprano du Requiem de Brahms. Et Rotter avait invité, pour qu'il écoute en même temps, Alfredo Kraus, qui peut imaginer une chose pareille, Rotter tendant la main à Alfredo Kraus, qui faisait Werther à ce moment-là à Paris. Et ces deux géants, tellement différents l'un de l'autre, mais gigantesques chacun dans sa spécialité, qui étaient réunis là pour entendre avec quelle espèce d'admiration, comme si Rotter voyait la vraie vie qui se ressourçait sous ses yeux et quelque chose qui continue. Et là, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, le sentiment que nous ne sommes pas les derniers à voir quelque chose et éventuellement à profiter de quelque chose, mais qu'il y en a d'autres qui continueront ensuite, qui ne laisseront pas la chose, qui ne laisseront pas le lien se rompre, et qui feront qu'en quelque sorte ce qui est éternel par essence, mais aussi intemporel, et passible de tous les risques possibles, demeure et traverse, voilà, et que le gazon continue à pousser.
De Boris au deuxième acte de Boris Godunov de Moussorski, Hans Rotter avec Eugen Jochum, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise en juin 1957. C'est étonnant comme avec cette voix-là qui est comme tellement reconnaissable, celle de Hans Hotter, ce qu'il arrive à faire en termes de couleur, dans le, à la fois dans le dramatique, dans le chuchoté, dans la voix blanche par moments.
Dans le chuchoté et dans la voix blanche, absolument, et pas seulement dans le rugissement. Et absolument indemne, enfin, des façons slaves, qui bien entendu ajoutent quelque chose à Boris, qui lui appartient par essence, enfin. Mais une sorte de majesté douloureuse arrive, quelque chose comme un ennoblissement par le moyen de l'allemand, et un personnage qui devient davantage universel, je dois dire.
On a parlé beaucoup de chanteurs au fil de cette émission, bien sûr. André Tuboeuf, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Des instrumentistes, on en avait croisé beaucoup aussi. Hein.
J'en ai croisé beaucoup. D'une certaine manière, l'influence sur moi n'a pas été de même nature. Enfin, de même que Serkin, en un sens, pour moi, a été depuis le début une sorte de je ne vais pas dire de guide d'écoute, mais de modèle presque moral, enfin, de rigueur. La première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, la musique est quelque chose qu'il faut écouter en faisant attention. Parce qu'on a là un guide qui n'est pas là pour nous faire rigoler, ni pour nous amuser, mais pour nous enseigner quelque chose qui ne peut s'enseigner que de cette manière. Mais je dois avoir des goûts extrêmement ouverts, parce qu'en vérité, je me suis pris de passion. Et je me permets d'oser le dire, une passion qui a été réciproque à un moment donné pour le merveilleux Rubinstein, que j'avais entendu souvent en récital ou en concert avec orchestre ou tout seul à Paris. Où il venait très souvent à Strasbourg, qui était une de ses villes favorites, d'autant plus qu'il ne jouait pas en Allemagne depuis la guerre et par conséquent était très content que le public allemand, contre lequel il n'avait rien individuellement, viennent l'entendre à Strasbourg. Bien entendu, Rubinstein était un hôte merveilleux quand on allait chez lui et qu'il racontait et qu'il racontait et qu'il racontait. Et comme il ne jouait pratiquement plus, il avait son temps à lui et il voulait, car le pauvre, sa vue baissait terriblement, il voulait qu'on le distrait, qu'on l'occupe, et il était toujours content d'avoir un interlocuteur avec qui ils se disent, bon, je vais lui parler d'Amy Destin, mais il sait qui c'est. Et l'histoire ne va donc pas tomber un peu dans le vide. Et j'ai eu la chance, je veux dire, avec Rubinstein, d'abord de l'avoir chez moi, à Strasbourg. Il raffolait du foie gras en général. Mais je dois dire que pour le foie gras de ma femme, il avait une espèce de tendresse tout à fait particulière, que je partageais parfaitement. Et j'ai eu la joie de pouvoir lui être utile, car sa vue baissait terriblement. Il continuait à écrire ses mémoires, dont j'avais lu avec enthousiasme le premier livre consacré vraiment à la petite enfance et aux années 1900-1910 à Londres, les débuts de la musique de chambre, des choses merveilleuses, où il rencontrait tout le monde et racontait ça avec une verve absolument inimitable, qui était la même que celle de sa conversation. Mais là, il avait vraiment décliné encore dans la vue et il s'était rendu compte que son livre était mal traduit. Il avait à peu près compris et il m'a dit, mon cher ami, je sais qu'on me trompe et parce que je deviens un pauvre aveugle, on veut se moquer de moi. Est-ce que vous me ferez l'amitié de lire ce qu'on a fait? Et j'ai lu et j'ai été épouvanté car ça commençait par un contresens, je ne sais plus lequel. Et il m'a dit, est-ce que vous ne le reprendriez pas, vous? Est-ce que vous ne le referiez pas, mon Dieu? Et il m'en a gardé une vraie reconnaissance, qui est une chose la plus émouvante, en fait, qui me soit arrivée dans la vie, pouvoir me dire, j'ai fait quand même, pour ce cher grand homme, voilà, quelque chose qu'il désirait qu'on fasse pour lui, que peut-être personne n'aurait fait, eh bien, je l'ai fait. Et ça a été vraiment, je veux dire, cette espèce de présence douce, lumineuse, amicale, tellement drôle en même temps, parce qu'il n'arrêtait pas, de dire des choses merveilleuses, la plus merveilleuse étant évidemment il disait, à 80 ans, je suis depuis longtemps tellement un piano qu'évidemment je trouverai toujours les touches, mais je ne trouve plus le piano. Avec lui, on a fait rire évidemment des générations, et c'est le genre de choses qu'il inventait. Et je le revois tournant ce merveilleux regard presque aveugle vers moi et me disant, voilà, derrière moi, j'ai là tous mes livres qui sont mes vrais amis, et je ne peux plus les fréquenter. Voilà, je ne peux plus les fréquenter. Et on sentait, quand on lui apportait un peu de présence et un peu de chaleur et de jeunesse aussi, et de gaieté, il lui était rendu quelque chose qu'il avait bien mérité qu'on lui donne. Et il parlait toujours de quintette de Schumann, il disait « Je sais là qu'il y a un moment où c'est comme une lame qui me perce le cœur. » Et il le disait avec le pathos qu'il voulait y mettre en perpétuel comédien, qu'il était quand même toujours, mais avec cette espèce de simplicité presque effrayée qu'il avait gardée jusqu'à la fin, devant les chefs-d'œuvre dont il se disait toujours « Je les sers ». Je les aime, mais au fond, je ne suis pas sûr que je suis digne de les jouer.
Thank you.
Arthur Rubinstein était au piano avec le quatuor Guarnieri dans cet extrait du quintet opus 44 de Robert Schumann. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée à l'écoute de France Musique et vous retrouve la semaine prochaine pour ce qui sera la dernière de notre série avec André Tuboeuf. 8e épisode dimanche prochain donc, sous le titre Le Passeur.
Et pourtant j'attendrai ton...
À réécouter sur francemusique.fr.